3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Notre histoire musicale débute en 1936 avec la fondation de la High School of Music and Art par le maire Fiorello LaGuardia. Il souhaitait créer une école publique dans laquelle les étudiants pourraient perfectionner leurs talents en musique, en théâtre et en art. En 1948, une institution similaire, la High School of Performing Arts, sera créée par l'éducateur Franklin Keller. Utilisant son personnel et ses administrateurs du Lower East Side de Manhattan, l'éducateur bâtira cette école publique qui offrait alors des programmes de musique, de danse, de théâtre et pendant un certain temps, de photographie. Ce sera en 1961 que les deux écoles fusionneront sur papier et devaient être regroupées dans un seul bâtiment. Cependant, ce projet prendra de nombreuses années à se réaliser. Le High School of Performing Arts se verra placé sur la 46e rue Ouest dans le quartier de Times Square, alors que le High School of Music and Art, elle, sera installée entre la 64e et 65e rue Ouest, les deux se trouvant sur l'île de Manhattan à New York. Ce sera finalement en septembre 1984, pour des raisons politiques et administratives, que le High School of Music and Art accueillera les étudiants des deux écoles dans son nouveau bâtiment qui fut conçu par l'architecte argentin Eduardo Catalano. L'édifice sera alors adjacent au Lincoln Center et le Conseil de l'éducation honorera le maire LaGuardia à titre posthume en donnant son nom au nouveau bâtiment. Nommé le Fiorello LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts, ou souvent tout simplement appelé LaGuardia, ce nouveau lycée public se spécialisera dans l'enseignement des arts visuels et des arts de la scène, incluant la danse. Cette institution est la seule parmi les 9 écoles secondaires spécialisées de New York à recevoir un financement spécial de la législature de l'État de New York. Durant la session 2019-2020, plus de 164 personnes travaillaient dans cet établissement qui comptait plus de 3011 élèves. Et c'est à l'intérieur de ces deux institutions que se situera cette édition musicale de Programme Double où je couvrirai les films Fame, version 1980, ainsi que la version 2009, tout en jetant un coup d'œil à la série de télévision populaire qui sera diffusée sur la chaîne NBC de 1982 jusqu'en 1987. Donc, sortez vos souliers de ballerine, votre voix de ténor et vos talents de comédien, car je vous propose ici un voyage dans la dure réalité de ces jeunes artistes qui espèrent un jour obtenir la gloire afin que leur nom soit remémoré par chacun d'entre nous à travers le temps et l'histoire.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted.
So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Get more out of life. Go out to a movie.
This is no Mickey Mouse school. You're not getting off easy because you're talented. You work twice as hard. Now, I don't care how well you dance or how cute you are or how many colored tutus you have. If you don't give your academic subjects equal time, you're out.
For Coco, it's the stardom. For Ralph, it's a chance. For Leroy, it's survival. For Lisa, it's the dance.
Bruno, this is our big chance, man. Don't you want success?
They've got nothing in common but a dream.
So you want to be an actor, huh?
Yeah, sure I want to be an actor. Judy.
A dream that one day, the whole world will know their name.
Because I'm going to be a dancer. A good dancer. You know who says so? Me.
A dream of fame. Fame. It's the dream of instant success.
I'll have $20,000 a week. I'll have a hit TV series. I'll have my face on the cover of TV Guide.
And the constant reminder of failure.
I don't think you'll ever be good enough, Lisa.
But I don't know what I'll do if I can't dance.
When I'm down and feeling blue.
It's dedication.
Dance is not a way of getting through school. It's a way of life.
And frustration. It's stage fright.
Memories.
And opening nights.
Kids are into sex a lot earlier in the South Bronx. Like about 6 a.m.
If I ask you to hold me tight.
It's love.
Through a cold, dark night.
It's pain.
All anyone ever promised you was 7 classes a day and a hot lunch.
It's contagious.
You want to know what's happened to me, man? Success, all right? Now you either hang on or you hang up.
It's outrageous. It'll change your name.
I'm becoming an actress.
But I want you to be the Doris that I know.
It'll change your life.
I'll pay my dues on the West Coast. Come back to New York as a star.
If they've really got what it takes, it's going to take everything they've got. Metro-Goldwyn-Mayer presents an Alan Parker film. Fame.
Fame, ou La fièvre des planches, est un drame musical qui a été distribué par les studios Metro-Goldwyn-Mayer le 6 mai 1980. Ce film américain d'une durée de 133 minutes a coûté 8,5 millions de dollars à produire et amassera plus de 42 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Alan Parker. Parker qui a réalisé les films Angel Heart, The Commitments et Pink Floyd The Wall. Au niveau de la production, c'est le producteur américain David De Silva qui produira le film Fame en 1980, qui s'associera avec Alan Marshall, ce producteur britannique qui avait travaillé sur les films Midnight Express, Bugsy Malone et Birdie. Au niveau de la scénarisation, ce sera le scénariste américain Christopher Gore qui travaillera, lui, sur le film de Fame version 2009 et également sur la télésérie de Fame. Au niveau de la distribution, on y retrouve Irene Cara, Lee Curery, Laura Dean, Antonia Franceschi, Paul McCrane, Barry Miller, Jean Anthony Ray, Maureen Tiffy, Anne Mira et Joanna Merlin. Une école secondaire de New York se spécialise dans la formation de jeunes qui se destinent au monde du spectacle. Tous les aspirants comédiens, chanteurs, danseurs ou musiciens doivent d'abord passer une audition avant d'être acceptés comme élèves. On suit quelques-uns d'entre eux au long de leurs 4 années d'études, durant lesquelles chacun doit affronter des problèmes particuliers tout en se préparant à un début de carrière souvent difficile. Ce sera en 1976 que David De Salva assistera à une représentation de A Chorus Line et sera attiré par un numéro musical intitulé Nothing qui faisait référence au New York City High School of Performing Arts. C'est ce segment qui l'inspirera pour créer une histoire présentant l'ambition, la réussite et les rejets qui influenceront la vie de certains des étudiants qui se trouveront dans cette institution. En 1977, De Silva se rendra en Floride, où il fera alors la rencontre du dramaturge Christopher Gore. Il embauchera alors Gore pour rédiger un scénario intitulé Hot Lunch et lui fournira des idées d'histoire impliquant l'intrigue et les personnages, en plus de lui remettre plus de 5 000 $ pour son travail. Une fois le scénario terminé, De Silva apportera le projet à la compagnie de production Metro-Goldwyn-Mayer, qui acquérera alors les droits cinématographiques du scénario pour la somme de 400 000 $. Après la sortie de son film Midnight Express, le réalisateur britannique Alan Parker sera alors approché pour le poste de réalisateur et fera la rencontre de De Silva à New York. Une fois embauché, en février 1979, Parker, dont il s'agira ici de sa toute première réalisation nord-américaine, retravaillera alors le scénario à son image, mais promettra à De Silva que seul Gore ne recevra le crédit de la scénarisation dans le générique du film. Parker acceptera et, par la suite, enrôlera son collègue Alan Marshall en tant que producteur. Le réalisateur demandera alors à Gore de le rejoindre à Londres, où les deux hommes commencèrent à retravailler sur une nouvelle version du scénario qui serait nettement plus sombre que ce que De Silva avait prévu à l'origine, ce qui amènera quelques fortes discussions entre les deux hommes. Louis Falco sera alors embauché pour s'occuper de la chorégraphie, sa toute première expérience au niveau cinématographique. Parker déménagera par la suite à Greenwich, au Connecticut, afin de commencer la pré-production. Durant sa préparation, le metteur en scène interagira avec de nombreux étudiants de l'École des arts et acceptera une invitation de leur part afin de les accompagner à une projection nocturne de la comédie musicale de Rocky Horror Picture Show. Cherchant un moment où le personnage de Doris allait prendre toute sa confiance en tant que comédienne, ce sera alors cette soirée qui donnera la réponse à Parker après que ce dernier soit inspiré par cette foule enthousiaste. Par la suite, Alan Parker, qui tenait absolument à ce que la distribution du film soit composée de véritables étudiants de l'École des arts et de la scène, passera plus de 4 mois à auditionner des milliers de jeunes adolescents de l'institution académique. Mais, au départ, ce projet ambitieux sera mis en danger après que le Board of Education déconseillera à la direction de l'école de laisser les étudiants travailler sur la production, craignant que cela n'affecte leurs études. Cependant, tout rentrera dans l'ordre lorsque Parker promit de réaliser le tournage de son film durant l'été, lorsque les élèves ne seront plus à l'école. Suite à cette entente, Parker distribuera des annonces de distribution dans l'École des arts de la scène et à la High School of Music and Art. Plus de 2000 personnes répondront à cet appel. Parmi les nombreux étudiants que Parker a rencontrés aux arts de la scène, seule Laura Dean, qui joue le personnage de Lisa Monroe, a été choisie pour un rôle principal, tandis que d'autres ont été choisis comme figurants. Pour le reste des personnes choisies dans l'institution, trois professeurs seront retenus, soit celui d'art dramatique, Jim Moody, un professeur de musique, Jonathan Strasser, et finalement, le compositeur de musique et acteur Albert Hagi, qui obtiendra le rôle de Shurovsky, rôle qu'il conservera dans la télésérie Fame de 1982 jusqu'en 1987. Pour le reste, Parker découvrira de jeunes talents qui avaient étudié à l'École des arts ou qui se trouvaient dans d'autres institutions. Irene Cara, une ancienne élève de l'école, sera choisie pour le rôle de Coco Hernandez, et ce malgré le fait que Parker ne fut pas très impressionné par l'audition musicale de celle-ci. Ce ne sera qu'après ses sessions d'enregistrement avec le compositeur de films Michael Gore que Cara obtiendra le rôle. Pour Gene Anthony Ray, qui interprète le personnage de Leroy Johnson, ce dernier était également étudiant en art de la scène, mais avait été expulsé de l'école car ce dernier avait des problèmes de comportement. Ce sera la directrice du choix de la distribution, Marguerite Simkin, qui découvrira le danseur alors que ce dernier faisait du breakdancing au coin d'une rue de Harlem et lui demandera alors d'auditionner pour un rôle dans le film. Pour Lee Curary, qui interprétera le rôle de Bruno Martelli, ce dernier apprit l'existence de la production alors qu'il fréquentait le Manhattan School of Music. Pour l'acteur Paul McCrane, ce dernier interprétera une chanson originale qu'il avait écrite pour son audition, intitulée « Is it okay if I call you mine? » Il sera alors choisi pour interpréter le personnage de Montgomery McNeil et sa chanson inspira tellement Parker que celui-ci l'inclura dans le film. Pour Barry Miller, qui avait été acclamé par la critique pour son rôle de soutien dans Saturday Night Fever en 1977, celui-ci sera choisi pour incarner Ralph Garcia, un acteur en herbe et un humoriste d'origine portoricaine. Pour Doris, ce sera la jeune actrice d'origine irlandaise Maureen Tiffey qui sera choisie au grand désaccord de De Silva, qui désirait obtenir une actrice juive aux allures ressemblant plus à celle d'une jeune Barbra Streisand. À souligner dans la distribution les débuts sur le grand écran de l'actrice Meg Tilly, qui agira ici comme danseuse de ballet, alors que nous assisterons également ici au premier rôle à l'écran, crédité de l'acteur Peter Raffleson, le fils du réalisateur Bob Raffleson. Pour le personnage de Lydia, celui-ci sera totalement modifié, car à l'origine, ce personnage se devait d'être une danseuse hors pair et se devait de compétitionner continuellement avec le personnage de Coco. Lorsque l'actrice Debbie Allen sera embauchée pour le rôle, celui-ci sera totalement changé et deviendra un des simples juges qui évaluera l'admission des étudiants et que nous n'apercevrons que dans les 10 premières minutes du long-métrage. Il est à noter que l'actrice Debbie Allen est la seule comédienne à avoir tenu son rôle original tout au long de cette franchise, devenant un personnage central dans la série télé de 1982 à 1987, avant de réapparaître finalement dans le remake de 2009. Le tournage débutera le 9 juillet 1979 dans la ville de New York. Ce sera une production difficile pour le metteur en scène britannique qui amènera plusieurs membres de son équipe de tournage de l'Angleterre. À cause de cela, Parker rencontrera plusieurs difficultés avec les représentants des syndicats américains qui désapprouvaient les membres de l'équipe britannique travaillant sur le film sans permis. Afin d'obtenir des permis de travail, Parker a conclu un accord avec les syndicats qui permettrait aux ouvriers locaux de travailler sur le film. Par la suite, l'équipe américaine et plusieurs membres de la distribution s'opposeront au style d'éclairage du directeur de la photographie Michael Saracen et du caméraman John Steiner, qui impliquait l'utilisation de brûleurs d'encens. Des représentants de la Screen Actors Guild et de l'International Alliance of Theatrical Stage Employees ont alors interrompu la production et interdiront à Parker d'utiliser de la fumée sur le plateau. Alors que les conditions météorologiques torrides compliqueront la vie du réalisateur, ce dernier sera de nouveau confronté à un autre problème lorsqu'il prévoira tourner le film à l'École des arts de la scène, mais qu'il se verra refuser l'utilisation des emplacements par le Conseil de l'éducation à cause du contenu sombre du scénario, ces derniers étant préoccupés par le langage vulgaire, le contenu sexuel et surtout la consommation de drogue montrée dans l'histoire. Irrité par cette situation, Parker et les producteurs menaceront de déplacer la production à Chicago, ce qui forcera la ville de New York à trouver deux écoles inutilisées, soit le Aaron High School et Performance Center. Les deux écoles seront alors converties au montant de plus de 200 000 $ et seront utilisées pour toutes les scènes d'intérieur. Le numéro musical de Fame sera filmé en 3 jours avec plus de 150 acteurs et plus de 50 danseurs professionnels. Les danseurs réaliseront la scène alors que l'on fera jouer la chanson Hot Stuff de Donna Summers, la raison étant que la chanson Fame de Irene Cara n'avait toujours pas été écrite. Avant le tournage de la séquence, le caméraman John Stanier dut quitter la production pour des raisons personnelles et ce sera le directeur photo Michael Sarrazin qui prendra sa place pour le tournage de cette séquence. Mais, encore une fois, ayant eu vent de cette situation, les représentants de l'International Alliance of Theatrical Stage Employees visiteront le plateau de tournage et menaceront Parker, lui annonçant qu'il était interdit à un directeur de la photographie de faire fonctionner une caméra et que la production serait définitivement arrêtée s'il n'embauchait pas un opérateur de leur syndicat. De plus, le lendemain, ce sera le département de police de la ville de New York qui exigera que la production cesse le tournage vers 16 heures de l'après-midi en raison de plaintes au niveau de la circulation routière du secteur. Finalement, les danseurs exigèrent un salaire supplémentaire pour effectuer des cascades au sommet des taxis. Mais, malgré tous ces problèmes, le tournage se terminera après 91 jours. Pendant le tournage, Parker remarquera qu'un film pornographique portait le titre de « Hot Lunch » et le réalisateur sera alors informé que le titre était « L'argot new-yorkais pour le sexe oral ». En réponse à cette information, MGM proposera plusieurs autres titres avant que Parker ne nomme le film « Fame » après la chanson de 1975 interprétée par David Bowie. Au niveau musical, ce sera le compositeur Michael Gore qui sera embauché, sa toute première expérience au niveau cinématographique. Alan Parker avait initialement approché Giorgio Moroder, qui avait auparavant travaillé sur Midnight Express, et Jeff Lynne, l'interprète principal du groupe Electronic Light Orchestra, pour travailler sur le film, mais les deux hommes refusèrent. Tous les numéros musicaux seront pratiquement tous interprétés sur le plateau de tournage, Parker voulant éviter le doublage pendant la post-production. La chanson « Hot Lunch Jam » a été fortement improvisée et sera conçue visuellement durant une seule journée impliquant des groupes d'enfants de toutes les disciplines. Alan Parker voulait que le film se termine par un énorme numéro musical qui mettait en valeur chacun des personnages impliqués dans l'histoire. Le réalisateur se tournera alors vers Michael Gore et le parolier Dean Pitchford, leur demandant d'écrire une chanson qui combinerait les 3 éléments musicaux du film, soit le gospel, le rock et la musique classique. Naîtra de cette demande la chanson « I Sing the Body Electric » qui sera nommée ainsi par Pitchford d'après le poème du même titre de la collection « Leaves of Grass » de Walt Whitman. Fame aura sa première mondiale le 12 mai 1980 au Ziegfeld Theatre de New York. L'argent amassé fut remis à l'Association pour un meilleur New York, une organisation à but non lucratif axée sur le renouveau et la croissance de la ville. Les premières représentations officielles dans les salles nord-américaines débutera le 16 mai 1980 au Cinéma Dome à Hollywood, en Californie. Cette fois-ci, les bénéfices de la projection seront versés au département des arts de la scène de l'Université de la Californie à Los Angeles. Le film sera bien reçu par les critiques et l'auditoire, amassant plus d'une 20 millions de dollars sur le continent nord-américain. 3 semaines seulement après la sortie de Fame en salle, le National Broadcasting Company, NBC, annoncera la production d'une série télévisée basée sur le film et débutera la production d'un épisode pilote le 12 décembre 1980. Le producteur David DeSalva conservera les droits musicaux afin de maintenir la franchise viable. Surnommé « Father Fame », l'homme fera la conception en 1987 d'un musical intitulé « Fame the Musical ». La pièce sera alors présentée à travers plus de 25 pays depuis sa création. Fame sera nominé aux Oscars dans la catégorie « Montage de film »,« Meilleur son » ainsi que « Meilleur scénario » écrit directement pour l'écran. Fame deviendra également le premier film de l'histoire des Oscars à avoir deux chansons nominées dans la catégorie meilleure chanson, soit les chansons Fame et Out Here on My Own. Fame remportera deux Oscars, le premier pour la musique originale et le second pour la meilleure chanson pour un long métrage avec Fame, interprétée par la chanteuse et actrice Irene Cara. Ironiquement, Cara gagnera de nouveau 3 ans plus tard le prix de la meilleure chanson aux Oscars avec Flashdance. Cette dernière décédera à sa résidence de Largo, en Floride, le 25 novembre 2022, à l'âge de 63 ans. Du côté des points forts, eh bien, le principal point fort du film est le fait que ce long métrage a été fait par un homme qui aime les arts en général. Cette œuvre, qui est séparée en plusieurs sections, passant de l'audition jusqu'au couronnement de 4 années d'études, jette un regard dur et cru sur le monde du spectacle et sur les difficultés réelles rencontrées par une jeunesse qui est en proie à de véritables prédateurs du niveau professionnel. Il est drôle tout de même de voir qu'un metteur en scène britannique a su faire vivre la ville de New York ici, qui est autant un acteur que les comédiens et comédiennes qui se donnent à fond dans cette production. La mise en scène de Parker est habile, dynamique et humaine et tire grand profit de sa distribution, dont la majorité en sont ici à leur toute première expérience cinématographique. D'ailleurs, Parker s'est donné une personnalité propre à ses différents personnages à un tel point qu'il n'est pas difficile de les replacer dans l'histoire à travers les autres protagonistes. La comédie et le drame sont habilement mélangés ici et la qualité des différentes chorégraphies sont tout simplement bien agencées, présentant ici un tableau très vivant et convaincant grâce à un montage extrêmement nerveux, une direction photo très contrastée et surtout une trame musicale de première qualité qui utilise tous les aspects de la musique comme le ferait une école des arts. D'ailleurs, Parker nous montre ici un très grand respect du milieu artistique et ce, à tous les niveaux. Du côté des points faibles, eh bien, le scénario nous présente une série de séquences qui se suivent afin de nous présenter les différents protagonismes du film, et cela brise quelque peu le rythme, ce qui nous donne une histoire quelque peu décousue. De plus, lorsqu'on arrive vers la 3e année des études, le film sombre alors dans la drogue et l'exploitation, ce qui cause une lourdeur qui, encore une fois, brise quelque peu le rythme endiablé du long métrage. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Michael Gore qui s'est occupé de la trame instrumentale, lui qui avait travaillé sur les trames sonores de Terms of Endearment, Broadcast News, Pretty in Pink et Defending Your Life. Je vous présente ici la chanson thème du film Fame.
Tell me what you
intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank's sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
What is it?
Say,
what is it?
Hey, why, it's Buttercup. Popcorn and sweet cream butter, two hot popcorn. Mix it up, wrap it up, Buttercup is born.
It's delicious.
So nutritious.
It's a taste delight.
It's so munchy.
Crisp and crunchy.
You'll enjoy each bite. Eat butter-crunched Buttercup popcorn at its best.
Served in a king-size cup.
It beats all the rest.
Zoom! It's Zoom, the new iced space lolly with three fruit flavor stages. And there's a space picture card with every Zoom. Get your Zoom now.
This is what S&H Pink Stems can mean to you. These are a few of the things you can get with S&H Pink Stems, the world's leading trading stamp company. Would you like to see some more? Why don't you save S&H Pink Stems? Shop wherever you see this sign.
Get with the jug man, get in the swing. Only ice cream is that cool zing. So make the evening a regular ball. Get the refreshment that's got it all. Cool man, like ice cream. Get yours now.
It's new Zoom from Lion's Mane. New Zoom with three flavor stages have new picture cards. Start collecting famous cars. There's one free with every Zoom. On sale now.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients. Soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
Becoming attraction.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
We've seen 150 students today. They all swear that they have a special gift to offer the school. Do you have a special gift?
Yes.
Wow.
Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time.
You've got talent. Let's see what we can do with it.
Oh, nice.
Remember my name.
My parents would die if they saw that. They think everyone's practicing cello all day.
I was the best singer at my old school.
How do you know if you're good enough?
She's hot. But she thinks she's like the most talented kid in the school.
Maybe she is.
This girl is amazing.
You guys produce?
And I'm actually working on a track right now.
Every teenager on this block wants to be the next rapper or singer.
Ma, I'm talented.
And who in the world told you you were so special?
You did.
Everything you want to change about yourself. All the parts of yourself that you keep secret.
Don't be afraid to succeed.
It's your power. It's who you are.
Fame, ou La fièvre des planches, est un drame musical distribué par les studios Metro Godwin Mayer le 25 septembre 2009. Ce film américain d'une durée de 107 minutes a coûté plus de 18 millions de dollars à produire et amassera plus de 77,2 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Kevin Tancharoen, ce metteur en scène qui nous avait donné les films Mortal Kombat, Rebirth et Arcana. Au niveau du poste de producteur, on y retrouvera les producteurs américains Mark Kenton, qui avait travaillé sur les films Jack Frost, Get Carter, la version 2000 et Piranha 3D, Gary Lucchesi, qui avait travaillé sur Jennifer 8, Primal Fear, The Gift, Crank 1 et 2, Tom Rosenberg, qui avait travaillé sur le film Runaway Bride et Autumn in New York, et Richard Wright, lui qui avait travaillé sur les films Lincoln Lawyer et les films de la franchise Underworld. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste Allison Burnett, lui qui avait travaillé sur le film Gone, Autumn in New York et Untraceable. Dans la distribution, on y retrouve Colin Spenny, Kay Panabaker, Asher Book, Paul Lacono, Naturi Nocton, Anna Maria Perez de Tagle, Paul McGill, Carrington Payne, Walter Perez, Christy Flores, Debbie Allen, Charles S. Dutton, Bibi Newworth, Megan Mullally et Kelsey Grammer. Dans la très prestigieuse école du High School of Performing Arts de New York, de jeunes danseurs, chanteurs et comédiens vivent différentes épreuves pendant plus de 4 ans en cherchant à se faire une place dans cet environnement ultra-compétitif. Suite à l'annonce de la production d'une série télé basée sur le film d'Alan Parker, Fame, the series, sera tournée au Aaron High School de New York. 4 acteurs du film reprendront leurs rôles respectifs, soit Jean Anthony Ray, Lee Corery, Albert Haggie et Debbie Allen. La série, qui sera alors supervisée par le scénariste Christopher Gore, avec la participation de David De Silva en tant que producteur consultant, sera sur NBC pendant 2 saisons, soit du 7 janvier 1982 au 4 août 1983. Après son annulation par NBC en 1983, la série sera alors renouvelée par MGM grâce à un accord spécial avec LBS Communications et relancera alors le programme en syndication, et ce, dès l'automne 1983. Fame the Series obtiendra alors, grâce à cette entente, 4 saisons supplémentaires, le dernier épisode étant diffusé aux États-Unis le 18 mai 1987. Afin de permettre le transfert de l'histoire du grand au petit écran, plusieurs points controversés du film, tels que les orientations sexuelles de certains personnages et l'utilisation de drogues, seront modifiés pour ne pas choquer l'auditoire. De plus, l'aspect mature du long-métrage sera ici totalement abandonné afin de rendre le programme plus accessible à un jeune auditoire. De cette série naîtra le groupe The Kids from Fame, groupe qui sera composé par les différents acteurs, actrices et danseurs de la série télé. Il se fera connaître tout d'abord à l'été 1982, lorsque la chanson High Fidelity atteindra la 5e place du UK Single Chart. Parallèlement à cela, un album intitulé The Kids from Fame sortira sur le marché et dominera le classement britannique des albums pendant plus de 12 semaines. Une série de chansons singles et d'albums suivront au cours des 12 mois suivants avec des chansons tirées des premières saisons de l'émission. À l'été 1983, alors que l'intérêt pour la série commençait à décliner aux États-Unis, les sorties d'albums et de chansons s'arrêteront alors brusquement, bien que la série télévisée se poursuivra jusqu'en 1987. En 2003, une émission spéciale sera produite et réunira plusieurs membres du groupe pour parler de leur passage dans l'émission. Le spécial aboutira à l'interprétation de la chanson « Star Maker » sur l'accompagnement au piano de Lee Corery. ce sera la dernière apparition à l'écran de l'acteur Gene Anthony Ray avant sa mort quelques mois plus tard due à des complications reliées au sida. On revient en 1997 et MGM Television produira une seconde série inspirée directement du film de 1980. Intitulée Fame Alley, cette nouvelle série, créée par Richard B. Lewis, se concentrera sur la vie de plusieurs étudiants fréquentant une école de théâtre et de danse de Los Angeles. La série mettait en vedette Christian Kane, Rosalind Sanchez, William Moses et Leslie Margherita dans les rôles principaux. La série sera diffusée en syndication du 19 octobre 1997 au 21 mars 1998. Puis, en 2002, MGM et Touchstone Television prévoyaient de développer un téléfilm de 2 heures qui servirait de suite directe au film Fame suite à une série télévisée dérivée. Les deux projets devaient être produits pour le réseau ABC, le téléfilm devant présenter plusieurs étudiants postulant à des postes à la New York City of Performing Arts, tandis que la série dérivée se concentrerait sur leur vie au cours de leurs 4 années de fréquentation de l'école. Devant mettre en vedette de nouveaux membres de la distribution en tant que jeunes étudiants, les deux projets, qui devaient être supervisés par le producteur exécutif Michael Gore, ne verront finalement jamais le jour. En 2003, MGM Television produira de nouveau une série, mais cette fois-ci en forme de télé-réalité qui sera intitulée Fame. Et ce, dans le but de capitaliser sur le succès de la série télé-réalité American Idol. Le concept consistera à découvrir un triple threat, c'est-à-dire une personne qui peut chanter, danser et interpréter sans problème un rôle avec une personnalité plus grande que nature. Co-animée par les comédiens Debbie Allen et Joey Fatton, l'émission mettra en vedette Carney Wilson, Johnny Wright et Jojo Wright en tant que juré. Fame sera diffusée sur NBC le 28 mai 2003 et possédera un total de 10 épisodes. 19 ans après le film culte d'Alan Parker, la compagnie Lakeshore Entertainment décidera de produire une nouvelle version de Fame qui sera réécrite avec de nouveaux personnages, de nouvelles chansons et une histoire qui s'adaptera à la nouvelle réalité des années 2000. Après s'être associé avec la maison de distribution MGM, Lakeshore mettra entre les mains du producteur Gary Lucchesi la responsabilité de s'occuper de la production du projet. Ce dernier embauchera alors le scénariste Allison Burnett, qui n'en était pas à son premier scénario, puisqu'il avait déjà écrit et réalisé en 1997 son tout premier film intitulé Red Meat. Puis, en 2000, il avait écrit le scénario du film Autumn in New York de la réalisatrice Joanne Chen, qui mettait alors en vedette Richard Gere et Winona Ryder. Par la suite, Lucchesi rencontrera de nombreux réalisateurs et arrêtera son choix sur le jeune réalisateur de 24 ans, Kevin Tencharoen, après seulement 2 rencontres. Pour Tencharoen, il s'agira ici du tout premier film de sa carrière. Cependant, malgré son jeune âge, le jeune homme avait déjà un CV assez impressionnant. En effet, il avait déjà occupé les postes de producteur, scénariste, danseur, chorégraphe et monteur. Tencharoen fera ses débuts comme danseur dans Street Dancers, puis occupera le poste de coproducteur exécutif sur la série Dance Life sur MTV, dont il réalisera également plus de 8 épisodes. Puis, il sera également réalisateur des spectacles de Britney Spears, Live from Miami, et de Pussycat Dolls Presents The Search for the Next Doll. Finalement, l'homme sera également chorégraphe pour Madonna. Au niveau de la distribution, l'actrice Debbie Allen sera de retour, devenant ainsi la seule personne à apparaître dans le film original de 80, la série télévisée et le remake. À ses côtés, le réalisateur ira chercher des comédiens et comédiennes d'expérience tels que Bebe Neuwirth, Charles S. Dutton et Kelsey Grammer. Cependant, tout comme dans le film original, Tencharoen donnera sa chance à de nouveaux talents, la totalité de la distribution des jeunes étudiants de la célèbre High School of Performing Arts de New York étant composée de jeunes acteurs et actrices qui débuteront ici leur carrière cinématographique. Il faudra plus de 6 mois pour choisir la distribution complète. La nouvelle version de Fame sera difficile à développer. En effet, le développement du scénario sera compliqué, surtout au niveau des chansons. La décision sera prise de changer le style musical jazzy rétro du film original par un style beaucoup plus moderne. Quelques chansons classiques seront malgré tout conservées, dont Out Here on My Own et la chanson-titre, qui ne sera chantée dans une version remixée que dans le générique de la fin. De plus, une décision sera prise afin de garder le film accessible à un jeune auditoire, enlevant ainsi tous les aspects sombres du film original de cette nouvelle version. Le tournage, qui débutera en décembre 2008, sera relativement facile et sans histoire. Ten Sharon privilégiera une approche quasi-documentaire avec des images tournées avec une caméra à l'épaule. Les plans extérieurs de l'École des arts de la scène seront réalisés à l'École professionnelle des arts de la scène sur la 48e rue Ouest à New York et non au lycée Fiorello LaGuardia. Après avoir terminé le tournage à New York, l'équipe de production se rendra à Los Angeles pour filmer les dernières séquences. Cette production s'avérera être une éducation pour les acteurs qui suivront alors un camp d'entraînement pour raffiner leur danse, leur voix ou encore apprendre un instrument. Ce sera la chorégraphe Marguerite Derricks qui s'occupera de la création des différentes séquences de danse. En hommage pour Christopher Gore, qui travailla sur le film de 1980 et la série télé, il fut décidé d'écrire son nom au générique comme co-scénariste, Gore étant décédé en 1988 d'un cancer. La première version du réalisateur sera d'une durée de plus de 3h30 et sera alors raccourcie à moins de 2h. La première du film se fera à Los Angeles le 23 septembre 2009, 2 jours avant sa sortie officielle en salle. Le film aura une réception mitigée de la part des critiques, mais aura tout de même un succès modeste, amassant plus de 22,4 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 50,9 millions de dollars au niveau international. Du côté des points forts, eh bien, cette version de Fame bénéficie d'une excellente distribution, d'une mise en scène rythmée, rehaussée par un montage dynamique et très nerveux. Les chorégraphies sont excellentes, tout comme les segments de danse et de chansons qui font le charme de cette version. Mais du côté des points faibles, ici, le manque d'expérience du jeune réalisateur se fait rapidement sentir, sa mise en scène devenant par moments mécanique et sans vie, et ne tirant tout simplement pas profit du maximum de son excellente distribution. D'ailleurs, contrairement au film d'origine, le long-métrage manque quelque peu de vie, celui-ci ne se contentant que de réduire à sa plus simple expression son intrigue banale, les personnages principaux ne vivant que des problèmes légers et superficiels, contrairement au film de 1980. Le jeu de caméra à l'épaule est fatigant ici et n'a pas vraiment sa place, le caméraman s'amusant à faire de nombreux zoom-in, zoom-out totalement inutiles pour donner une fausse impression de rythme. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur de musique Mark Isham qui va s'occuper de la trame instrumentale du film, ce compositeur américain qui avait travaillé sur des films comme Never Cry Wolf, The Hitcher, la version 86, et A River Runs Through It. Je vous fais écouter ici la version moderne du thème du film Fame.
hardships I've lived and I've grown. And those lessons worth more than silver and gold. I'm letting it go, I'm living my life. I see it now, my name and life. I'm on my grind and it's not a game. I'ma make sure you remember my name.
Côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm avait coté le film 3 à l'époque. Aujourd'hui, il est coté 4. Pas vraiment d'accord avec ça. Moi, je cote ce film-là 2. Non seulement ça l'a très bien vieilli, mais c'est encore aujourd'hui un des meilleurs drames musicaux qui m'ont été donné de voir au cinéma. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, à l'époque, on mettait le film 14 ans. Aujourd'hui, la régie du cinéma le cote général. Moi, je continue à y aller avec une cote 14 ans. Je trouve que le contenu de film, la version 1980, est beaucoup plus dirigé à un auditoire adulte qu'à un jeune auditoire. Du côté de film, la version de 2009, eh bien, la Mediafilm avait coté le film 5. J'y vais également avec un 5. Alors que du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma avait coté le film général. Moi également, j'y vais avec une cote pour tous. Du côté de la série télé, eh bien, film de series, moi, j'y vais avec une cote numéro 5. Je pense que la série comprend quand même des personnages qui sont extrêmement attachants, qui vont nous donner le goût de revenir à toutes les semaines réécouter les nouveaux épisodes. Les histoires sont quand même bien réalisées. De plus, les segments de danse et les différentes chansons sont d'excellente qualité, surtout lorsqu'on pense qu'il s'agit ici d'une série hebdomadaire de plus de 24 épisodes par année. Mais du côté des mauvais côtés, bien, c'est quand même une série télé, donc les intrigues sont quelque peu superficielles. Les solutions aux problèmes surviennent très souvent avec une simplicité des plus désarmantes. Et bien que la distribution soit très attachante, il faut avouer ici qu'il y a certains comédiens qui sont de qualité moyenne, même certains comédiens qui ne savent pas chanter ou danser, mais dont le charme, c'est nous faire revenir écouter cette série. Au niveau des trames sonores, eh bien, pour Fame, la version de 1980, vous avez la soundtrack qui a été sortie le 4 décembre 2012 en format digital. Et vous avez quand même la trame sonore qui est sortie originale, qui est sortie à l'origine en 1980 et qui a été mise sur vinyle et sur cassette 4 pistes. Donc, vous avez la possibilité d'avoir cette trame sonore-là sur les différents types de formats existants. Pour Fame, la version de 2009, eh bien, vous avez bien sûr l'étiquette Lakeshore Record qui a sorti la trame sonore le 25 août 2009 sur CD. Et vous avez également More Music from the Motion Pictures qui a été également sorti sous l'étiquette Lakeshore Record le 19 janvier 2010. Donc, deux trames sonores pour le film de 2009. Si vous êtes intéressé à vous procurer les soundtracks de The Kids of Fame, bien, The Kids from Fame, on a vu des CD qui ont été sortis. Il y a des cassettes et il y a également des vinyles. Donc, vous avez l'album de 1982 de Kids from Fame. Vous avez également un autre vinyle qui a été sorti qui s'appelle Again en 1982. En 83, vous allez avoir trois micro-sillons. Donc, vous allez avoir Live, Songs et Sing for You. Et finalement, en 84, vous aurez Rock'n'Roll World et Best of Fame. Toutes ces trames sonores ont été sorties sous l'étiquette RCA, ici en Amérique du Nord. Au niveau du DVD et du Blu-ray, eh bien, le film Fame, la version 1980, est disponible en DVD et en Blu-ray, en français et en anglais, tout comme le film de 2009, qui est également distribué en français et en anglais, en Blu-ray et en DVD. La version 2009 comprend également un Extended Dance Edition dans le format Blu-ray et DVD. Pour la série télé, malheureusement, seulement les deux premières saisons ont été sorties en DVD par la compagnie MGM. Donc, vous êtes capable d'avoir la saison 1 et la saison 2. Il n'y a rien qui a été annoncé pour les prochaines saisons, mais qui sait, ce sera peut-être quelque chose que nous verrons dans un futur rapproché. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.